De retour à Allo Showbiz sur les ondes de CJSO. Et aujourd'hui, la belle visite, on l'a reçue à quelques reprises sous le nom de Serge Fortin.
C'est
aujourd'hui,
vrai.
On le reçoit sous le nom de Farley. Salut. Ouais.
Salut.
Comment vas-tu?
Très bien.
Nouveau projet?
C'est pas un nouveau nom, d'ailleurs. Ça, Farley Fortin, c'est mon nom. Mais là, j'exploite le côté Farley, le côté irlandais plus que français.
Est-ce que c'est parce que tu t'en vas vers un autre monde complètement, un autre genre de disque que tu as voulu porter une autre étiquette, un autre nom qui est ton nom? Mais...
Ouais, ben, oui, Farley, je trouve ça, c'est ça, c'est l'origine irlandaise, c'est ma mère. Ma mère a joué du piano, ma mère était musicienne, elle l'est d'ailleurs toujours, elle n'est pas morte. Et bon, c'est exploiter ce côté-là un peu festif, tu sais, quand on se fait un feu, on se fait de la musique, quand on est en famille, on joue autour du piano, en tout cas, c'était comme ça chez nous, puis ça l'est encore. Donc, c'est ce côté-là que j'exploite dans cet album-là. Ouais.
T'as même voulu l'enregistrer chez tes parents, ce disque-là?
Au départ, je devais faire ça chez mes parents. Comment ça se fait que tu sais ça?
Ah, j'ai fait ma recherche.
Je devais l'enregistrer dans le salon chez mes parents. Puis là, à un moment donné, ça commençait à être compliqué. Amener tout le kit. Mais au départ, c'était ça le plan de match. Mais finalement, ce que j'ai fait, j'ai décidé de le faire comme si on jouait live. D'ailleurs, on joue live. Puis on a mis un seul micro dans l'espace, puis on a placé ça à bonne place, puis on s'est installé autour du micro, à la bonne distance du micro, pour créer l'option que le batteur, il était en arrière des petites portes patio qu'on y avait mis, l'ampli de guitare électrique, on la reculait, on l'avançait, on montait le son, on baissait le son, le cabinet de basse, la guitare sèche, le banjo guitare, le piano droit, on a vraiment joué tout le monde ensemble, les cinq musiciens.
Et ça, on fait de moins en moins ça maintenant. Pour les gens qui connaissent moins de la façon que ça se passe, les enregistrements d'albums, souvent ouais. C'est track par track.
Oui, track par track, piste par piste, un par un qui embarque par-dessus l'autre, etc. Puis là, ça, tu crées l'univers. Mais là, c'est revenir un peu aux années 50-60, comme ça se faisait à la Johnny Cash, comme ça se faisait... Il arrivait les Beatles, il arrivait le matin, puis le soir, il y avait un album, là. Veux pas. Oui. Et puis il arrivait à la fin de la journée, je sais pas, moi, il était fatigué, puis là, il chantait la dernière tune. Oh, shake it, baby! Là, il arrivait. Il était fatigué de sa journée, mais ça a donné la chanson que ça a donné.
C'est vrai.
Je veux dire, à un moment donné, Twist and Shout, ça pourrait pas être Twist and Shout si ça avait été monté track par track. C'est justement parce que le gars était fatigué qu'il avait une voix éraillée à la fin de la journée.
Snack Bar Cherita.
Oui.
Qui est un endroit qui existe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça existe?
Ben, en tout non.
Cas, c'est inspiré.
C'est une invention.
Inspiré
ouais.
Des snack bars, des truck stops.
Il y en a plein de snack bars chez Rita, mais celui-là, ouais. Il est virtuel. Il est dans ma tête. Mais il est inspiré de plusieurs endroits. Il y avait en Abitibi, nous autres, on avait la patate plante, la patate chez Tipit. On avait, tu sais, ils ont tous des noms spéciaux. En s'en allant vers Rouen, on avait un endroit où on s'arrêtait à chaque vendredi quand nous autres, on passait puis on allait voir la parenté. Dans le nord de l'Ontario, il y avait plein de snack bars. Il y avait à Valrita, on arrêtait à plusieurs endroits. Puis ça avait un petit côté toujours comptoir avec banc qui tourne, banc sur pied en gros métal. Ouais. Puis c'est un peu ça. Pour moi, le snack bar chez Rita, il en existe des milliers. Mais celui-là... J'ai trouvé le nom, je trouvais ça un peu sympathique en même temps. Puis j'ai pris la photo du snack bar sur la pochette. Je l'ai pris à Montréal, dans un endroit qui s'appelle le New System. C'est un restaurant sur la rue Beaubien, à Montréal. Mais qui a cet esprit-là vraiment, qui n'a pas changé depuis 40, 50, 50 ans facile. Là. C'est vraiment, c'est bonbon à l'os. Moi, j'aime ça.
Le premier lancement, c'est à Val-d'Or que tu le fais, ce
oui.
Projet-là. C'était important d'en faire un chez toi, dans ton coin, tu viens de l'Abitibi. C'était important ouais. D'aller là, de présenter ce disque-là, parce qu'il respire l'Abitibi, ce disque-là.
Ah, les chansons en parlent. Ils parlent des grands espaces, ils parlent de la nature, ils parlent il y a la côte de 100 pieds, la baie Carrière. C'est tous des endroits, justement, où là, oui, j'ai grandi, où j'ai habité, où ça me parle encore. Et même à ça, j'ai écrit comme il y a une chanson qui s'appelle Panorama d'Abitibi. Je l'ai écrit avec Luc de la Rochelière. C'est lui qui a fait le texte. Moi, j'ai fait la musique. Et il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu voudrais dire là-dessus? Ben là, il l'a inventé, lui, sans être venu chez nous.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est ça qui est bon. C'est que le thème récurrent, c'est l'Abitibi. Donc, la Mouffe, Diane Tell, Pierre Huet, Alain Dessureau, Luc de la Rochelière, qui ont écrit la majorité des textes, ils savaient que je voulais parler de Val-d'Or, de l'Abitibi, de mon coin de mine, des forêts, etc. Donc, on a exploité ça. Puis moi, j'ai rassemblé tout ça. Hein. C'était mon rôle un peu. Puis j'en ai écrit des textes aussi pour que ça fasse tout un... que ça colle ensemble.
Évidemment, tu roules ta bosse dans le métier depuis des années, mais est-ce que c'est flatteur quand tous ces gens-là acceptent d'écrire avec nous, d'écrire pour nous des chansons?
Ben oui, c'est
Mouffe
sûr.
Mouffe qui a écrit pour...
Ben Mouffe qui a écrit pour Céline Dion, puis ouais. Elle a écrit pour Farley cette année, c'est pas pire. Mais tu sais, c'est des rencontres que j'ai pas fait ça juste pour flasher, parce qu'il y en a des fois, ils veulent des collaborations.
Des noms pour avoir des noms.
Pour avoir des noms, mais... Moi, c'est senti un peu mon affaire dans le sens où Mouffe, j'aime ses textes depuis longtemps. Luc de la Rochelière, je le suis depuis longtemps. Je connais toute Diane Tell. J'ai joué avec Diane. Je joue encore avec Diane. J'écris pour Diane aussi des chansons. Pierre Huet, je connais tous ses textes à Pierre Huet. C'est pas fauné, mon affaire. Tu sais, il y en a qui pourraient dire « Ah, lui, c'est la saveur du moment. »
Faut une Nadenton.
Je veux en écrire une parce qu'il pogne. Tu sais, j'irai pas... Moi, c'est moins mon... Je savais que ceux que je choisissais avaient une écriture qui allait bien correspondre à ce que je voulais faire sur l'Abitibi. Puis en plus, dont Diane Tell, qui vient de Val-d'Or. Ouais. Puis elle est en arrière de chez elle. Il y a une chanson qui s'appelle « La côte de 100 pieds ». Ben, c'était dans sa cour. Même si je ne l'ai pas écrite, celle-là, avec Diane, je l'ai écrite avec Alain Dessureau. Ça parle... Tu sais, elle voyait tout ce que je suis en train de bâtir. Donc, les textes... ont coulé, puis en plus, Luc de la Rochelière, Diane Tell, c'est des très bons musiciens, des très bons mélodistes, des très bons compositeurs, mais dans ce projet-là, ils écrivent des mots, ils font pas la musique. La musique, c'est moi qui la faisais, c'est ça.
Est-ce que c'est particulier mettre de la musique sur les mots des autres? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes faire?
Moi, j'aime ça, oui. J'aime ça quand le texte est fini, il y a déjà une âme. Il est déjà en piétage, les gens ont pris le temps de réfléchir. J'aime moins créer une musique puis qu'un parolier place...
Un texte dessus.
Ouais, ça, j'aime moins ça. Peut-être que parce que la musique, il faut qu'elle soit trop définie. Je préfère, moi, dans ce cas-là, je préfère que quelqu'un réfléchisse au thème, à ce qu'on veut dire, puis après, je le mets en musique. Moi, ça me donne peut-être aussi plus de liberté, de ce sens-là.
Est-ce qu'après ça, tu as hâte de voir ce qu'ils ont pensé de l'enrobage que tu as fait de leurs mots?
Ah ben oui, évidemment, je les ai fait écouter à tout le monde, puis il n'y a pas personne qui a dit qu'il n'aimait pas ça. Ils m'ont tous dit « j'aime ça, c'est bon, c'est cool ». Ils aiment le côté « fresh » un peu, le côté « frais ». Tu sais, si je me prends pas au sérieux, là, sur la pochette, on me voit, je suis assis au comptoir d'un snack bar chez Rita. Puis, je veux dire, les chansons sont un peu comme ça, le but, c'est pas de partir en peur avec une poésie incompréhensible, puis c'est pas dark du tout. Celui-là, il est très enjoué, très laissé aller. Il est deux œufs bacon, à quelque part.
Ouais.
Et il y a un esprit country dedans, mais sans les bottes ni le chapeau. C'est-à-dire que c'est la formule musicale, le rassemblement est un peu Johnny Cash. Il est John Mellencamp, un fond rock. Il y a un peu un enrobage, mais j'ai pas mis de violon. C'est volontaire. J'ai pas mis de guitare comme on entend plus dans les chansons classiques country ou western. Donc, il n'y a pas ce côté dobro ou guitare lancinante.
Ouais.
Donc, c'est plutôt... Les structures musicales sont country. L'enrobage est moins country, il est plus deux œufs bacon.
Je lisais un article où on disait, c'est peut-être toi qui le disais, que depuis que tu travailles avec Diane, ton côté auteur, compositeur, interprète est plus reconnu, est-ce que je me trompe?
Ben, évidemment, Diane Tell, du Québec, j'en connais pas autant, en tout cas, qui sont aussi connus que dans toute la francophonie mondiale, donc c'est sûr que... Diane, elle a ce côté d'avoir écrit toujours dans un français quand même impeccable. avec une structure mélodique qui est jazzée, qui est musique du monde. Sa création, elle continue de jour en jour. Elle ne s'est pas arrêtée à juste chanter toujours. Oui, les gens veulent entendre ses succès, c'est normal. Bien sûr. Puisque quand tu as du succès, ça fait ta marque de commerce, donc tu peux pas cracher.
Et c'est ce qui fait que les gens viennent en spectacle aussi.
Évidemment. Mais elle continue d'écrire des chansons. Puis moi, j'ai été privilégié, je te dirais, que quand j'avais fait le 75e de Val-d'Or, d'où je viens, j'ai organisé le spectacle du 75e de Val-d'Or. Puis c'est là que j'ai rencontré Diane, puis elle m'a dit « J'aimerais ça faire un album au Québec. » Parce que ça fait 25 ans que j'en ai pas fait au Québec. J'ai toujours collaboré avec plein de gens, mais j'ai pas enregistré au Québec, puis j'ai pas fait des chansons au Québec. Ben, j'ai dit « On va en faire. » Donc, on a commencé à en faire une sur le bord du lac de la Ricana. Et puis après ça, on en a fait deux, on en a fait trois, on en a fait quatre, on en a fait cinq, on en a fait six. Là ça a comme explosé. Donc, évidemment, Diane, à chaque fois qu'elle a fait des entrevues, même en France, partout, elle a nommé mon nom, comme quoi on a initié ce projet-là ensemble. Évidemment, ça m'a été bénéfique, ça, il n'y a pas de doute.
Moi, il faut écrire une chanson pour ta mère, en hommage à ta mère.
Ouais.
Comment c'est quand on reçoit un texte qui parle de quelque chose d'aussi près de nous que ta mère?
C'est spécial. C'est spécial parce que là, je suis allé à Noël à Val-d'Or, et puis je l'ai présenté à ma mère et à mon père. Puis évidemment, tu sais, c'est pas la réaction quand ça parle de ta mère, puis dans la chanson, à proprement parler. Avec ma mère, bien contente. Elle dit, ouais, elle dit, c'est bon. Elle dit, vraiment, elle a mis le doigt sur vraiment le... C'est pas une histoire inventée, quoi. C'est spécial comment, justement, un vrai auteur peut capter... Moi, j'y ai parlé à Mouf que ma mère... Elle accompagnait des artistes qui arrivaient de Montréal dans les années 60, Jean Raffa, puis Daniel Odera, puis ils arrivaient, ces gens-là. Ils arrivaient en Abitibi, ils atterrissaient à Val-d'Or par avion, puis... Ils se rendaient directement à la salle de spectacle. Ma mère les attendait, puis elle les accompagnait. Puis là, ils faisaient une série de spectacles, 5, 6, 8, 10, 15 spectacles, dans le nord de l'Ontario, Rouyn, Amos, Lassard, Kapuskasing, Hearst, puis il y a beaucoup de francophones dans le nord de l'Ontario. Ils revenaient à Val-d'Or, et souvent, ils se faisaient un gros party, après 10, 12, 15 jours de spectacle, passaient la nuit blanche, parce que le lendemain matin, à 6h, 7h, ils prenaient l'avion. Donc, la dernière nuit, ça se passait autour du piano, puis ils fêtaient, puis ils buvaient, puis ils prenaient un verre, puis ils s'amusaient. Donc, la chanson, pas la chanson, mais l'idée, j'ai parlé de ça à Mouf, elle m'a dit, t'es né sous un piano, toi. J'ai dit, ouais, oui. Fait qu'elle, elle part avec un flash, né sous un piano, puis là, elle écrit, je suis né sous un piano, puis là, elle part, puis là, la chanson prend déjà forme, mais elle a un fond de vérité de ce que j'y ai raconté, puis elle le met en structure. Après, moi, je fais la musique, puis ça n'a pas pris énormément de temps à naître une fois que le concept est là.
Ouais. Mais c'est comment pour toi de la chanter la première fois? Parce qu'il y a un côté émouvant, ça te ramène
c'est sûr.
À ton enfance carrément, qui a grandi dans ce monde musical-là.
Oui, puis ça a un côté... les mots ont été choisis par Mouf, des mots très simples. Tu sais, ça finit en « o », ça finit en « ou », ça finit en « or ». Elle n'a pas commencé à niaiser avec des rimes lentes ou quoi que ce soit. C'est des mots très, très... Tu sais, quand elle écrit, comme, mettons, tu sais, « je suis un gars bien ordinaire », tu sais, la chanson n'est pas ordinaire.
Effectivement.
Même si le gars, il dit « je suis un gars bien ordinaire », mais de le dire, c'est pas ordinaire. Mais de l'écrire comme ça, ça a l'air bien niaiseux. Mais quand tu le chantes, ça devient quelque chose qui sonne. Et dans ce cas-là, les mots, ils sonnent avec la musique que j'ai trouvée. Ben, j'imagine, moi, ça que t'as à faire jouer. Les gens pourraient l'entendre.
Ça va jouer. Il y a aussi Rêvé debout.
Oui.
Écrite par Pierre Huet.
Oui.
Parle des gens de ton coin. De ton coin.
Oui.
C'était important de l'avoir, cette chanson-là.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ouvre l'album avec ça. Ouais. Je nomme pas l'Abitibi, mais on a tous un coin où on se retrouve puis on est bien. des fois, les gens, ils partent la fin de semaine au chalet. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aller leur voir leurs deux semaines de pêche pendant l'année ou une semaine de chasse ou un moment de ressourcement. Il y en a qui vont faire du ski de fond. Il y en a d'autres qui, bon, peu importe la période de l'époque, de l'année, il y en a qui ont besoin de sortir de la ville, sortir de notre petit quartier, tu sais. Rêver debout, c'est un peu ça. Puis en même temps, ça parle pas uniquement de l'Abitibi, ça parle du Québec en général. Faut être fier aussi de notre espace dans lequel on vit. Puis il y a un petit côté, mais faut le protéger, faut s'en occuper. Faut s'en occuper, sinon à un moment donné, si on laissait faire tout le monde, il y aurait quoi à l'extérieur de Montréal? Tout serait ravagé pour exploiter uniquement les ressources, quoi. C'est quoi le but? Donc, c'est un peu ça. Donc, rêver debout, c'est à ce côté-là un peu qu'on est fier, puis en même temps, on sait qu'on vit longtemps l'hiver, puis ça nous a créé un espace avec l'hiver. L'hiver fait partie de nos mœurs, quoi.
C'est un album concept, disons ça comme ça. Et maintenant, on n'écoute plus la musique comme ça. On l'écoute aléatoire, on l'écoute pièce par pièce. Est-ce que c'est encore important pour toi d'avoir quelque chose qui se tient, un projet qui est là de A à Z?
Oui, ben moi je pense que c'est vrai, t'as raison, que les gens peuvent piger une chanson ici et là par le numérique, puis écouter en rafale la chanson 4, puis pas faire exploser les 6 autres, les 7 autres, puis pas les écouter. C'est correct, c'est vrai. Mais moi, en tant que créateur, quand je l'ai fait, moi je le voyais comme un tout. Je veux dire, moi, j'ai le droit aussi de le voir comme un tout. Puis, des fois, quand on crée des chansons, puis je pense qu'encore la majorité des gens qui créent, ils pensent à mettre la chanson 1 à la chanson 1, puis la 2, elle va à 2, puis la 3, elle irait pas en 5. Le créateur, lui, continue de créer les choses de façon conceptuelle, mais celui qui consomme, lui, il n'est pas obligé de respecter ce que l'autre a fait. Et c'est la même chose pour la signification des chansons. Règle générale, si je prenais la peine d'expliquer toutes les chansons à ma façon, ça ne veut pas dire que l'autre, c'est comme ça qu'il va le vivre. Donc, nécessairement, des fois, il vaut mieux pas trop en parler sur les mots comme tels. Tu dis, oui, on a écrit sur tel thème, c'est ça qu'on... Mais pas besoin de dire, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais écrire, c'est ça que j'ai... Non, ça, des fois, c'est bon de laisser... les choses pas trop dites, hein, juste les choses comme ça, puis tu laisses aller, puis les gens s'en font leur propre histoire. Bon, ben après ça, une fois qu'ils en font leur propre histoire, ben même si t'as la tienne à l'écriture, ça veut pas dire que c'est la leur à eux, parce que ça leur appartient maintenant. Donc c'est ça. Ça là-dessus, non. C'est concept, le snack bar chez Rita, parce que ça prend un thème, mais... les chansons, au total, les gens peuvent aimer une plus que l'autre, tout à fait. Mais moi, je les ai placées dans cet ordre-là. Oui, c'est vrai.
Tu as dit tout à l'heure que tu avais travaillé avec des gens que tu admires, que tu suis depuis des années, des gens qui t'inspirent. Est-ce que c'est dur de le dire quand il y a quelque chose qui fait pas notre affaire dans un texte ou quand il y a quelque chose qu'on aime moins, quand c'est des gens qu'on apprécie autant?
Ben moi, ça m'est pas arrivé. Donc,
heureusement.
Nécessairement, ça veut dire que c'est vraiment des personnes qui écrivent bien ou qui font bien.
Qui ont bien saisi ce que tu avais demandé.
Parce qu'en même temps, une collaboration, il faut pas la forcer non plus. J'ai demandé à d'autres personnes que je nommerai pas, deux autres personnes. Des fois aussi, dans leur carrière, ils ont peut-être pas le temps. C'est peut-être aussi le timing. Puis c'est des gens même qui me rappellent pour s'excuser de pas le faire. Donc, nécessairement, c'est pas du mauvais monde.
Faire, non, c'est
pas du mauvais monde non plus. Donc, évidemment, s'ils me disent, ah, là, je fais ci, je fais ça, ah, j'ai pensé à ton affaire. Puis là, à un moment donné, toi aussi, t'as un deadline de ton côté. Puis si la personne, un mois et demi après l'enregistrement, dit, j'ai ton texte, je dis, oui, mais là, il est trop tard, là. Tu sais, à un moment donné, là, je peux pas. Tu sais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est un concours de circonstances. Mais si les chansons. Sont venus au monde, c'est parce que les gens ont voulu le faire aussi. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas attendre, puis attendre, puis attendre. Faut que ça ait lieu. Faut que les gens aient envie de le faire. Donc, nécessairement, quand ils ont envie de le faire, je pense qu'on trouve une formule pour qu'il existe une chanson. Ça, à date, c'est ce qui m'est arrivé, là.
T'avais envie de revenir avec un projet solo?
Oui.
Parce que depuis quelques années, tu travailles avec beaucoup de monde, tu t'es promené beaucoup, avec Diane, entre autres, tu l'as dit, tu avais ce désir-là de revenir avec un truc solo.
Oui, oui, je trouve que c'est important. Tu sais, j'ai écrit pour d'autres aussi, bon, j'ai participé à certains projets, mais celui-là, je trouve que... Puis en même temps, mais il n'y a que ma musique dessus, donc j'ai exprimé quelque chose à un moment précis, puis là, je voulais que ça soit festif. Je trouve des fois que c'est ça, la musique, pour moi, il faut que ça reste un divertissement. Faut pas que ça soit pris trop au sérieux. Je fais pas de la musique intellectuelle. J'ai pas envie non plus de montrer que je suis bon à écrire des mélodies complexes, là. Je veux dire, des fois, j'aime ça quand c'est un moment de détente. Parce que les gens, aujourd'hui, des fois, je trouve qu'il y en a qui font de la musique, mais être un peu trop sérieuse. Puis les gens, ils disent, ouais, ouais, mais là, on dirait qu'il faut que je travaille quand j'écoute, t'sais. J'aime ça aller voir du théâtre quand c'est facile aussi. Pas toujours obligé de trouver qu'est-ce que le scénariste, le réalisateur, on est obligé toujours de se casser la tête. T'sais. Des fois, ça fait du bien juste d'aller voir un bon film, là, ben popcorn. Il n'y a pas de mal à ça, t'sais. Pas obligé d'être toujours le grand... La grande affaire d'auteur, là, tu sais, dans le noir, là, tu sais.
Mais il y a toujours ce débat-là, dans les médias, entre les gens qui font de la musique plus émergente et la musique qu'on a appelée de région au dernier gala de la disque.
Mm.
Comment tu réagis face à ce débat-là entre les deux univers?
Moi, j'ai pas... Honnêtement, là, tu sais, moi, je suis pas dans la disque, premièrement, donc...
Déjà.
Je fais pas partie de la disque, donc je pourrais jamais être nominé puisque je paye pas mes cotisations à la disque. Donc, premièrement, pour être nominé à la disque, il faut toujours bien être signé par une compagnie qui paye ses cotisations. Donc, évidemment, si moi, je la paye pas, je peux pas en faire partie, puis on pourra pas me nominer jamais. Donc, nécessairement, il y a plusieurs façons de faire des légumes au Québec. T'sais. Il y en a qui produisent un seul légume sur X hectares de terrain, puis il y en a d'autres sur le même, ou la moitié moins, ils cultivent 25 variétés de légumes. Tu as une production dite commerciale, puis tu as une production dite paysanne. Pour moi, c'est à peu près la même chose dans le débat qu'on entend sur la musique dite commerciale. Il y a des radios qui se prétendent commerciales, puis il y en a d'autres qui se prétendent non commerciales. Trouvez l'erreur aussi. C'est qu'une radio commerciale, c'est quoi? C'est une radio qui, en fait... veut faire des profits en faisant jouer de la musique, mais ça y prend des publicitaires, parce que la musique, elle coûte de l'argent à la faire jouer. Ce qu'elle a besoin, c'est des publicitaires. C'est une radio commerciale, ça veut dire qu'elle cherche de la pub. Plus elle va être commerciale, plus on entend rien que de la pub sur sa radio.
Oui.
Bon, une radio qui est dite non commerciale, elle va devenir une radio donc plus communautaire. Elle est là pour véhiculer ce qui se passe dans sa région.
Oui.
Qui se passe dans son monde, puis il va faire passer de la musique, mais elle ne cherche pas nécessairement à faire jouer que les numéros 1 jusqu'au numéro 12, parce que c'est comme ça que ça marche aux États-Unis, puis c'est comme ça que ça se passe à Toronto. Elle n'est pas obligée de faire jouer juste le hit parade. Tu sais, c'est ça, là. Il y a deux mondes là-dedans. Moi, je pense qu'effectivement, je ne suis pas dans l'option à grand déploiement. Déjà, et puis je fais du paysan. Donc, nécessairement, Snack Bar chez Rita, ça va bien avec ça. Mon intention n'est pas de plaire à l'entièreté de la planète, puis qu'on en entende sur tous les réseaux, nécessairement. Donc, ça a ce côté-là un peu, je dirais, c'est. J'ai pas besoin de me conformer au son actuel. J'ai décidé de l'entièreté de ce qu'il y a dans le disque à ma façon.
Et de faire ce que tu as envie de faire, tout simplement.
Et la durée des chansons, il y a des chansons qui durent 5 minutes 54 secondes. Il y a des chansons qui frôlent le 6 minutes. Il y en a d'autres. Si j'avais fait affaire avec un certain producteur ou un autre de façon commerciale, on m'a dit « Ouais, mais là, si ça passe pas 3 minutes 20, ça ne sera pas à radio. » Donc, ça n'a pas été fait pour la radio, nécessairement. Ça a été fait pour moi me rendre heureux à la base de ce que j'écris. Je ne me suis pas contraint de rien là-dessus. Donc, nécessairement, c'est une production... Tu sais, c'est ça. Des fois, il y a une pas mal la belle tomate toute ronde, toute fraîche qui arrive de Los Angeles. Ouais. Puis à côté, tu as une tomate qui a poussé dans un champ au Québec, puis qui a des petites poques noires dessus. Mais quand tu la manges, elle est bien plus savoureuse, à mon sens.
Serge, on veut te suivre? On va sur le web?
Oui, toutes les plateformes. Et mon site internet, c'est farleymusic.ca. Donc, Farley, c'est F-A-R-L-E-Y. Et je ne vends pas mon CD, là, le CD physique. Je ne le vends pas en magasin. Okay. Je ne l'ai pas fait distribuer en physique. Il n'est que achetable sur mon site. Donc, il faut absolument aller sur mon site pour l'acheter. On ne peut pas aller en magasin. Mais il est disponible sur toutes les plateformes mondiales numériques.